Petit 2. L'adaptation du capitalisme. Les moyens d'adaptation les plus efficaces de l'économie capitaliste sont l'institution du crédit, l'amélioration des moyens de communication et les organisations patronales. Commençons par le crédit. De ses multiples fonctions dans l'économie capitaliste, la plus importante consiste à accroître la capacité d'extension de la production et à faciliter l'échange. Au cas où la tendance interne de la production capitaliste à un accroissement illimité se heurte aux limites de la propriété privée, aux dimensions restreintes du capital privé, le crédit apparaît comme le moyen de surmonter ces limites dans le cadre du capitalisme. Il intervient pour concentrer un grand nombre de capitaux privés en un seul. C'est le système des sociétés par action. Et pour assurer aux capitalistes la disposition de capitaux étrangers. C'est le système du crédit industriel. Par ailleurs, le crédit commercial accélère l'échange des marchandises, donc le reflux du capital dans le circuit de la production. On se rend aisément compte de l'influence qu'exercent ces deux fonctions essentielles du crédit sur la formation des crises. On sait que les crises résultent de la contradiction entre la capacité d'extension, la tendance à l'expansion de la production d'une part, et la capacité de consommation restreinte du marché d'autre part. En ce sens, le crédit est précisément, nous l'avons vu plus haut, le moyen spécifique de faire éclater cette contradiction aussi souvent que possible. Tout d'abord, il augmente la capacité d'extension de la production dans des proportions gigantesques. Il est la force motrice interne qui pousse à dépasser constamment les limites du marché. Mais il frappe de deux côtés. En sa qualité de facteur de la production, il a contribué à provoquer la surproduction. En sa qualité de facteur d'échange, il ne fait, pendant la crise, qu'aider à la destruction radicale des forces productives qu'il a lui-même mises en marche. Dès les premiers symptômes d'engorgement du marché, le crédit fond. Il abandonne la fonction de l'échange précisément au moment où celui-ci serait indispensable. Il révèle son inefficacité et son inutilité quand il existe encore, et contribue au cours de la crise à réduire au minimum la capacité de consommation du marché. Nous avons cité les deux effets principaux du crédit. Il agit encore diversement sur la formation des crises. Non seulement il offre aux capitalistes la possibilité de recourir aux capitaux étrangers, mais encore il l'encourage à faire un usage hardi et sans scrupule de la propriété d'autrui. Autrement dit, il l'incite à des spéculations hasardeuses. Ainsi, en qualité de facteur secret d'échange de marchandises, non seulement il aggrave la crise, mais encore, il facilite son apparition et son extension. En faisant de l'échange un mécanisme extrêmement complexe et artificiel, ayant pour base réelle un minimum d'argent métallique. De ce fait, il provoque, à la moindre occasion, des troubles dans ce mécanisme. Ainsi, le crédit, loin de contribuer à abolir ou même à atténuer les crises, en est au contraire un agent puissant. Il ne peut d'ailleurs en être autrement. La fonction spécifique du crédit consiste, très généralement parlant, à corriger tout ce que le système capitaliste peut avoir de rigidité en y introduisant toute l'élasticité possible, à rendre toutes les forces capitalistes extensibles, relatives et sensibles. Il ne fait évidemment ainsi que faciliter et qu'exaspérer les crises, celles-ci étant définies comme le heurte périodique entre les forces contradictoires de l'économie capitaliste. Ceci nous amène à une autre question. Comment le crédit peut-il apparaître comme un « facteur d'adaptation » entre guillemets du capitalisme? Sous quelque forme qu'on s'imagine cette adaptation, sa fonction ne pourrait consister qu'à réduire un antagonisme quelconque du capitalisme, à en résoudre ou en atténuer une contradiction en débloquant des forces grippées à tel ou tel point du mécanisme. Or, s'il existe un moyen d'exaspérer au plus haut point les contradictions de l'économie capitaliste actuelle, c'est bien le crédit. Il aggrave la contradiction entre le mode de production et le mode d'échange en favorisant au maximum la tendance à l'expansion de la production, tout en paralysant l'échange à la moindre occasion. il aggrave la contradiction entre le mode de production et le mode d'appropriation en séparant la production de la propriété, en transformant le capital en capital social. Mais par ailleurs, en donnant à une partie du profit la forme d'intérêt du capital, donc en le réduisant à être un simple titre de propriété. Il aggrave la contradiction entre les rapports de propriété et les rapports de production, en expropriant un grand nombre de petits capitalistes et en concentrant entre les mains de quelques-uns des forces productives considérables. Il aggrave la contradiction entre le caractère social de la production et le caractère privé de la propriété capitaliste en rendant nécessaire l'intervention de l'État dans la production. Entre parenthèses, création de société par action. En un mot, le crédit ne fait que reproduire les contradictions cardinales du capitalisme. Il les exaspère. Il accélère l'évolution qui en précipitera l'anéantissement, l'effondrement. Le premier moyen d'adaptation du capitalisme quant au crédit devrait être la suppression du crédit, l'abolition de ses effets. Tel qu'il est, celui-ci ne constitue nullement un moyen d'adaptation, mais un facteur de destruction à l'effet profondément révolutionnaire. Ce caractère révolutionnaire qui conduit le crédit à dépasser le capitalisme n'a-t-il pas été jusqu'à inspirer des plans de réforme d'esprit plus ou moins socialistes? Il n'est qu'à voir ce grand représentant du crédit, qu'est en France un Isaac Perret, et que ses plans de réforme font apparaître, selon Marx, à moitié comme un prophète et à moitié comme une canaille. Tout aussi fragile apparaît, quand on l'examine de plus près, le deuxième facteur d'adaptation de la production, les organisations patronales. D'après la théorie de Bernstein, elles doivent, en réglementant la production, mettre fin à l'anarchie et prévenir l'apparition des crises. Sans doute le développement des cartels et des trusts est-il un phénomène dont on n'a pas encore étudié toutes les diverses conséquences économiques. Il constitue un problème qu'on ne peut résoudre qu'à l'aide de la doctrine marxiste. En tout cas, une chose est certaine. Les associations patronales ne réussiraient à endiguer l'anarchie capitaliste que dans la mesure où les cartels, les trusts, etc. deviendraient, au moins approximativement, une forme de production généralisée ou dominante. Or, la nature même des cartels l'interdit. Le but économique final et l'action des organisations consistent, en excluant la concurrence à l'intérieur d'une branche de la production, à influer sur la répartition de la masse du profit réalisé sur le marché, de manière à augmenter la part de cette branche d'industrie. L'organisation ne peut augmenter le taux de profit dans une branche d'industrie qu'aux dépens des autres. C'est précisément pourquoi elle ne peut être généralisée. Étendue à toutes les branches d'industrie importantes, elle annule elle-même son effet. Mais même dans les limites de leur application pratique, les associations patronales sont bien loin de supprimer l'anarchie. Au contraire, les cartels n'obtiennent ordinairement cette augmentation du profit sur le marché intérieur qu'en faisant rapporter pour l'étranger à un taux de profit bien inférieur la part du capital excédentaire qu'ils ne peuvent utiliser pour les besoins intérieurs. C'est-à-dire en vendant leurs marchandises à l'étranger à meilleur marché qu'à l'intérieur du pays. Il en résulte une aggravation de la concurrence à l'étranger, un renforcement de l'anarchie sur le marché mondial, c'est-à-dire précisément le contraire de ce que l'on se proposait d'obtenir. C'est ce que prouve, entre autres, l'histoire de l'industrie mondiale du sucre. Enfin, et plus généralement en leur qualité de phénomène lié au mode de production capitaliste, les associations patronales ne peuvent être considérées que comme un stade provisoire, comme une phase déterminée du développement capitaliste. En effet, les cartels ne sont rien d'autre, au fond, qu'un palliatif à la baisse fatale du taux de profit dans certaines branches de production. Quelle méthode utilisent les cartels à cet effet? Il ne s'agit, au fond, que de la mise en jachère d'une partie du capital accumulé, c'est-à-dire de la même méthode employée sous une autre forme dans les crises. Or, du remède à la maladie, il n'y a qu'une différence de degré. Et le remède ne peut passer pour un moindre mal que pendant un certain temps. Le jour où les débouchés viendront à diminuer, le marché mondial étant développé au maximum et épuisé par la concurrence des pays capitalistes, et l'on ne peut nier que ce mouvement arrivera tôt ou tard, alors la mise en jachère partielle et forcée du capital prendra des dimensions considérables. Le remède deviendra le mal même, et le capital fortement socialisé, par l'organisation et la concentration, se transformera de nouveau en capital privé. En présence de difficultés accrues pour se faire une place sur le marché, chaque portion privée du capital préférera tenter seule sa chance. À ce moment-là, les organisations crèveront comme des bulles de savon, laissant la place à une concurrence aggravée. Dans l'ensemble, les cartels, tout comme le crédit, apparaissent donc comme des phases déterminées du développement qui ne font, en dernière analyse, qu'accroître encore l'anarchie du monde capitaliste, manifestant en eux-mêmes et portant à maturité toutes ces contradictions internes. Ils aggravent l'antagonisme existant entre le mode de production et le mode d'échange en exaspérant la lutte entre les producteurs et les consommateurs. Nous en voyons un exemple aux États-Unis d'Amérique. Ils aggravent en outre la contradiction entre le mode de production et le mode d'appropriation en opposant à la classe ouvrière, de la manière la plus brutale, la force supérieure du capital organisé, exaspérant ainsi à l'extrême l'antagonisme entre le capital et le travail. Enfin, ils aggravent la contradiction entre le caractère international de l'économie capitaliste mondiale et le caractère national de l'État capitaliste, parce qu'ils s'accompagnent toujours d'une guerre douanière générale. Ils exaspèrent ainsi les antagonismes entre les différents États capitalistes. À cela, il faut ajouter l'influence révolutionnaire exercée par les cartels sur la concentration de la production, son perfectionnement technique, etc. Ainsi, quant à l'action exercée sur l'économie capitaliste, les cartels et les trusts n'apparaissent pas comme un « facteur d'adaptation », entre guillemets, propre à en atténuer les contradictions, mais bien plutôt comme l'un des moyens qu'elle invente elle-même pour aggraver sa propre anarchie, développer ses contradictions internes, accélérer sa propre ruine. Cependant, si le système du crédit, si les cartels, etc., n'éliminent pas l'anarchie du monde capitaliste, comment se fait-il que pendant deux décennies, depuis 1873, nous n'ayons eu aucune grande crise commerciale? N'est-ce pas là un signe que le mode de production capitaliste s'est, au moins dans ses grandes lignes, adapté, entre guillemets, aux besoins de la société, contrairement à l'analyse faite par Marx? La réponse ne s'est pas fait attendre. À peine Bernstein avait-il relégué en 1898 la théorie de Marx sur les crises parmi les vieilles lunes, qu'une violente crise générale éclata en 1900. 7 ans plus tard, une crise nouvelle éclatait aux États-Unis, gagnant tout le marché mondial. Ainsi, la théorie de « l'adaptation » entre guillemets du capitalisme fut démentie par des faits éloquents. Ce démenti même démontrait que ceux qui abandonnaient la théorie de Marx sur les crises, pour la seule raison qu'aucune crise n'avait éclaté au terme prévu par l'échéance, avaient confondu l'essence de cette théorie avec un de ses aspects extérieurs secondaires, le cycle de 10 ans. Or, la formule d'une période décennale accomplissant tout le cycle de l'industrie capitaliste était chez Marx et Engels, dans les années 60 et 70, une simple constatation des faits. Ces faits ne correspondaient pas à une loi naturelle, mais à une série de circonstances historiques déterminées. Ils étaient liés à l'extension par bond de la sphère d'influence du jeune capitalisme. La crise de 1825 fut en effet le résultat des grands investissements de capitaux dans la construction des routes, des canaux et des usines à gaz qui furent accomplis au cours de la décennie précédente, et notamment en Angleterre où éclata la crise. De même, la crise suivante, de 1836 à 1839, fut la conséquence de placements formidables dans la construction des moyens de transport. La crise de 1847 fut provoquée, on le sait, par l'essor fiévreux de la construction des chemins de fer anglais. Ouvrez la parenthèse. De 1844 à 1847, c'est-à-dire en 3 ans seulement, le Parlement anglais accorda des concessions de lignes de chemin de fer pour une valeur d'environ de 1,5 milliard de tellers. Fermez la parenthèse. Dans ces trois cas, ce sont par conséquent différentes formes d'expansion nouvelle de l'économie grâce au capitalisme, de la création de nouvelles bases du développement capitaliste, qui sont à l'origine des crises. En 1857, on assiste d'abord à l'ouverture brusque de nouveaux débouchés à l'industrie européenne en Amérique et en Australie, à la suite de la découverte des mines d'or. Puis ce fut, en France notamment, à la suite des exemples anglais, la construction de nombreuses lignes de chemin de fer. Ouvrez la parenthèse, de 1852 à 1856, on construisit en France, pour 1 250 000 francs, de nouvelles lignes de chemin de fer. Fermez la parenthèse. Enfin, la grande crise de 1873 fut, comme on sait, une conséquence directe de la création et de l'expansion brutale de la grande industrie en Allemagne et en Autriche, qui suivirent les événements politiques de 1866 et 1871. Ce fut par conséquent, chaque fois, l'expansion brusque de l'économie capitaliste, et non le rétrécissement de son champ, ni son épuisement, qui fut à l'origine des crises commerciales. La périodicité décennale de ces crises internationales est un fait purement extérieur, un hasard. Le schéma marxiste de la formation des crises, tel qu'Engels et Marx, l'ont exposé, le premier dans l'anti-During, le second dans le livre 1 et le livre 3 du Capital, ne s'applique d'une façon juste à ces crises que dans la mesure où il est découvert leurs mécanismes internes et leurs causes générales profondes. Peu importe que ces crises se répètent tous les 10 ans ou tous les 5 ans, ou encore alternativement tous les 20 ou tous les 8 ans. Mais ce qui démontre le mieux l'inexactitude de la théorie de Bernstein, c'est le fait que ce sont précisément les pays où les fameux facteurs d'adaptation capitalistes, le crédit, les moyens d'information et les trusts sont le plus développés, qui ont ressenti avec le plus de violence les effets de la crise de 1907-1908. L'idée que la production capitaliste pourrait s'adapter, entre guillemets, à l'échange, implique de deux choses l'une. Ou bien que le marché mondial s'accroît sans limite, à l'infini, ou bien au contraire, qu'il y a un frein au développement des forces productives, afin que celles-ci ne débordent pas les limites du marché. La première hypothèse se heurte à une impossibilité matérielle. À la seconde, s'opposent les progrès constants de la technique dans tous les domaines de la production, suscitant tous les jours de nouvelles forces productives. Reste un phénomène qui, d'après Bernstein, contredirait la tendance ci-dessus indiquée du développement capitaliste. C'est la « phalange inébranlable », entre guillemets, des entreprises moyennes. Ils voient dans leur existence un signe que le développement de la grande industrie n'a pas une influence aussi révolutionnaire du point de vue de la concentration des entreprises que ne le croient les tenants de la « théorie de la catastrophe », entre guillemets. Mais il est ici encore victime d'un malentendu qu'il a lui-même créé. Cela serait en effet mal comprendre le développement de la grande industrie que de s'imaginer qu'il entraîne nécessairement la disparition progressive des entreprises moyennes. Dans le cours général du développement capitaliste, les petits capitaux jouent, d'après la théorie marxiste, le rôle de pionniers de la révolution technique, et ceci à un double titre. D'abord, en ce qui concerne les méthodes nouvelles de production dans les anciennes branches fortement enracinées, ensuite, dans la création de nouvelles branches de production non encore exploitées par les gros capitaux. On aurait donc tort de se figurer l'histoire des entreprises moyennes comme une ligne droite descendante qui irait du déclin progressif jusqu'à la disparition totale. L'évolution réelle est ici encore dialectique. Elle oscille sans cesse entre des contradictions. Les classes moyennes capitalistes se trouvent, tout comme la classe ouvrière, sous l'influence de deux tendances antagonistes, l'une ascendante, l'autre descendante. La tendance descendante et la croissance continue de l'échelle de la production qui déborde périodiquement le cadre des capitaux moyens, les écartant régulièrement du champ de la concurrence mondiale. La tendance ascendante est constituée par la dépréciation périodique du capital existant, qui fait baisser pour un certain temps l'échelle de la production, selon la valeur du capital minimum nécessaire, ainsi que la pénétration de la production capitaliste dans les sphères nouvelles. Il ne faut pas regarder la lutte des entreprises moyennes contre le grand capital comme une bataille en règle, où la partie la plus faible verrait de plus en plus diminuer et fondre ses troupes en nombre absolu. C'est plutôt comme si de petits capitaux étaient périodiquement fauchés pour s'empresser de repousser, afin d'être fauchés à nouveau par la grande industrie. Des deux tendances qui se disputent le sort des classes moyennes capitalistes, c'est finalement la tendance descendante qui l'emporte. L'évolution est ici inverse de celle de la classe ouvrière. Cela ne se manifeste pas nécessairement dans une diminution numérique absolue des entreprises moyennes. Il peut y avoir, premièrement, une augmentation progressive du capital minimum nécessaire au fonctionnement des entreprises dans les anciennes branches de la production, et deuxièmement, une diminution constante de l'intervalle de temps pendant lequel les petits capitaux conservent l'exploitation des nouvelles branches de la production. Il en résulte pour le petit capital individuel une durée d'existence de plus en plus brève et un changement de plus en plus rapide des méthodes de production ainsi que de la nature des investissements. Pour la classe moyenne dans son ensemble, il en résulte une accélération du métabolisme social. Bernstein le sait parfaitement bien, et il le constate d'ailleurs lui-même. Mais ce qu'il semble oublier, c'est que c'est là la loi même du mouvement des entreprises moyennes capitalistes. Si on admet que les petits capitaux sont les pionniers du progrès technique, qui est lui-même le moteur essentiel de l'économie capitaliste, on doit conclure que les petits capitaux accompagnent nécessairement le développement du capitalisme, car ils font partie intégrante de celui-ci et ne disparaîtront qu'avec lui. La disparition progressive des entreprises moyennes, au sens statistique absolu dont parle Bernstein, signifierait non pas, comme le pense ce dernier, la tendance révolutionnaire du développement capitaliste, mais le contraire, c'est-à-dire un arrêt, un assoupissement de ce développement. Ouvrez les guillemets. Le taux de profit, c'est-à-dire l'accroissement proportionnel du capital, dit Marx, est important avant tout pour tous les nouveaux placeurs de capitaux se groupant indépendamment. Et dès que la formation de capital tomberait exclusivement aux mains d'une poignée de gros capitaux tout formés, le feu vivifiant de la production s'éteindrait, entrerait en somnolence. Fermez les guillemets. Citation du Capital, livre 3, chapitre 15.